Radio Galilée vous propose à l'instant le Carême 2023. Un entretien dirigé par l'abbé Denis Veilleux avec le père Philippe Capel-Dumont, philosophe, prêtre et président émérite de l'Académie catholique de France, qui nous livre ses réflexions sur le thème « L'heure vient ».
Père Philippe Capel-Dumont, la troisième tentation de Jésus au désert est comme la démesure du dévoilement de Satan. Comment comprendre que le diable se dévoile et se cache ?
Oui, alors, vous avez raison d'évoquer ce binôme. Je rappelle quand même qu'est-ce que dit cette tentation. Le démon donc l'emmène sur une très haute montagne et il lui fait voir tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. Il dit « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Comme s'il le possédait, comme si c'était lui. Il ment déjà. Il est dans un trafic d'influence, en quelque sorte, bâti sur un mensonge. Il fait croire qu'il est déjà le possédant, alors qu'il n'a rien. Donc, que dit Jésus ? Arrière Satan, car il est écrit « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui que tu adoreras. » Alors, arrière Satan, je rappelle que c'est exactement le même mot que Jésus va dire à Pierre. Quand il lui a dit « Mais jamais tu n'iras à la croix, arrière Satan », dit-il au premier des papes. C'est extraordinaire. Et là, arrière Satan, à Satan même. Donc, qu'est-ce qui est en jeu ici ? C'est le refus de l'accomplissement de la gloire de Dieu, de l'expression de la gloire de Dieu. Alors, que fait le Satan ? Eh bien, il triche, il s'arroge une puissance... Il s'arroge la puissance de conférer la puissance. Il s'arroge en quelque sorte le titre de celui qui peut délivrer les diplômes du pouvoir. Donc Jésus, alors ce que vous appelez le voile dévoilement, c'est que le diable en réalité se dévoile comme étant le menteur par excellence. C'est-à-dire qu'il se dévoile presque sans le faire exprès. Et Jésus met en relief ce mensonge premier du diable. On pourrait dire d'ailleurs que la première atteinte dont nous serions victimes du diable, c'est le mensonge. Lorsqu'il y a mensonge, le diable, ça y est, entré. Voilà. Le mensonge, c'est le degré 1 de la vie diabolique. Dans les couples, dans les familles... dans la relation à Dieu, dans la relation à moi-même, je peux me mentir à moi-même. Et puis tout d'un coup, patatras. C'est le premier degré de la vie diabolique. Alors ce que je voudrais, en écho à cela, indiquer, c'est qu'on a là, en réalité, au fond, c'est essentiel. Une expression tout à fait singulière de l'éternité de Dieu. C'est-à-dire que vous savez que dans la Genèse, le diable promet à l'homme et à la femme d'être des dieux. C'est-à-dire que, dit-il, c'est Dieu qui a menti. Pas lui, c'est Dieu qui a menti. Et donc, il vous a menti. Mais si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Et donc, ça veut dire qu'il est possible de s'accaparer la capacité d'être Dieu. Donc, la puissance divine. Il est possible de s'accaparer. Eh bien... C'est exactement le contraire que Jésus révèle dans Philippiens, dans l'Épître aux Philippiens. Vous connaissez cet hymne extraordinaire aux Philippiens, lui de condition divine. Alors on traduit quelquefois « ne retint pas jalousement le rang qu'il est qualifié à Dieu ». Mais ce n'est pas une bonne traduction. La véritable traduction, c'est « il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu ». C'est l'antithèse de la Genèse, où justement il fallait s'accaparer la puissance de Dieu, c'était la promesse du diable, et Jésus, lui, se révèle comme celui qui n'a jamais voulu considérer comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est dans son entité celui qui ne recherche jamais à être le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de la puissance impériale, de la puissance humaine, de la puissance militaire, de la puissance physique. Voilà. C'est une autre toute-puissance de la paternité. Donc on a là, en quelque sorte, le diable, là aussi, a tout faux. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette tentation, il entend organiser une relation avec Jésus en pensant que c'est la bonne. La relation de pouvoir, la relation de la puissance. Et donc ce qui est révélé, c'est que de toute éternité, Dieu, si vous me permettez ce paradoxe, est Dieu. Le Christ est Dieu parce que justement il n'a jamais considéré qu'être Dieu était quelque chose à posséder. Mais il l'est justement dans le don de lui-même. Et donc la Trinité, c'est la circulation de l'amour où l'un se donne à l'autre. Et la création, c'est l'expression du don infini de Dieu qui ne cesse de multiplier, de donner infiniment. Et on peut très bien imaginer, sans forcer le trait, que la création est infinie. Est infinie. Dieu se déploie dans son infinité. Donc on a là quelque chose d'assez merveilleux, finalement. C'est que nous qui sommes relativement faibles, et même parfois franchement faibles, sans puissance, nous sommes sur le chemin de la puissance de Dieu uniquement en aimant. Alors que ce n'est pas parce que j'aurai un compte en banque très fourni, ce n'est pas parce que j'aurai une puissance intellectuelle supérieure, ce n'est pas parce que je saurai maîtriser tous les problèmes que pour autant j'organise mon éternité. Mon éternité, elle est dans ma puissance d'altération. C'est pourquoi les handicapés, par exemple, qui n'ont pas nécessairement une grande puissance intellectuelle, qui n'ont pas nécessairement une même puissance tout court, ne sont pas privés d'éternité. Ils sont capables de donner, d'atteindre immédiatement ce qu'il en est du mystère de Dieu. Il y a quelque chose, c'est-à-dire une manière de donner une dignité, si vous voulez, retrouver, au plus faible, qui n'a pas de puissance, mais qui, en étant comme Jésus, et dans la puissance de Dieu qui donne la vie éternelle. Donc, on est là aux confins du mystère divin, du mystère du monde, que ne peuvent comprendre que les cœurs éprouvés, avertis, convertis. Donc, qui suppose un retour sur soi, mais qui suppose surtout une conscience éprouvée de sa propre finitude, de sa propre petitesse. Enfin, et Jésus est sur ce terrain-là, est sur la longueur d'onde du sans-puissance, sans-puissance qui révèle la vraie puissance. Hein. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ceux qui déclarent que Dieu n'est pas tout-puissant. Si, il y a une toute-puissance, mais c'est la toute-puissance de l'amour, et rien d'autre. Mais c'est tout-puissant. Justement, quand certains disent il faudrait supprimer du credo, je crois en Dieu, mais non, il faut garder la toute-puissance, puisque c'est la paternité qui est toute-puissante. On n'est pas dans la toute-puissance impériale, c'est la toute-puissance de l'amour. Donc elle a une puissance, il y a une efficience de l'amour. Et donc il faut garder impérativement le mot toute-puissance, qui n'a encore une fois rien à voir avec la puissance militaire, la puissance stratégique, un peu comme disait Staline au temps difficile, le Vatican, combien de divisions ? Il n'y a pas de division militaire au Vatican. Et pourtant, le totalitarisme soviétique s'est effondré. Et l'Église est toujours là. Donc, la puissance de l'amour dont l'Église vit, c'est le meilleur garantie, non pas de sa pérennité, parce que l'Église ne vit pas pour elle-même, mais c'est la garantie de la pérennité de son message. Et donc, ce qui suppose, bien sûr, que l'Église, attention, veille toujours sa mémoire, évidemment. Hein. Je rappelle quand même que dans l'Évangile, Jésus, à certains moments, quand on voulait l'arrêter, il se dérobait et passait son chemin. Hein, il n'était pas totalement masochiste là non plus. Hein. Il était conscient de la mission qui devait être la sienne. Mais tout est tourné vers la construction du monde, le salut du monde. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire, c'est perdu, et pourtant, ce sera sauvé. Donc voilà en quelque sorte la tentation, mais il y en a un qui ne sera jamais, qui ne veut pas être sauvé, c'est le Satan précisément, et qui est la tentation, au fond c'est l'incarnation de la tentation, c'est pas simplement une représentation anthropomorphique, je ne suis pas d'accord, hein, le Satan au contraire n'a de sens dans la Bible que dans la mesure où il signifie une altérité destructrice, hein. On n'est pas simplement dans... C'est une manière libérante de parler de l'homme, parce que si on dit que le mal est en l'homme, c'est dramatique, non, le mal vient à l'homme. Donc c'est une manière de sauver l'homme, hein, que de confesser, si je puis dire, de déclarer le Satan. Ça veut dire que l'homme n'est pas mal, mauvais, n'est pas le mal en lui, mais il est sollicité par le mal. Et donc c'est en quelque sorte la voie du salut qui est ainsi ouverte. Et donc le récit des trois tentations que nous venons de dire, eh bien loin de nous faire peur, devrait en principe nous libérer.
Vous venez d'entendre le Carême 2023, un entretien dirigé par l'abbé Denis Veilleux avec le père Philippe Capel-Dumont, philosophe et prêtre.